Les cours du Collège de France, évolution du climat et de l'océan, Édouard Barr.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue à ce troisième cours sur l'évolution du climat et de l'océan pour cette année. Et donc, je vais continuer sur les Vikings au Groenland et je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé à la fin justement de cette période de plusieurs siècles, en fait, plus de quatre siècles d'occupation de quelques colonies vikings ou établissements au Groenland. Et j'ai essayé dans les derniers cours, en fait, de vous montrer un petit peu les données paléoclimatiques satisfaisantes ou parcellaires, on va dire, telles qu'elles sont actuellement à notre disponibilité pour voir effectivement la dégradation qui s'est passée là-bas régionalement liée à cette transition entre l'optimum climatique médiéval et le petit âge glaciaire. Et je vous ai parlé aussi de cette petite société qui était en contact avec l'Europe, avec des échanges et notamment un commerce important d'ivoire de morse, et on a vu qu'il y avait des ramifications en fait très récentes en fait d'implication de la génétique qui montre en fait que peut-être il y a eu des échanges et des explorations encore plus importantes que ce qui était soupçonné jusqu'alors. Alors je vous ai rappelé en fait cet ouvrage que vous connaissez probablement tous. L'ouvrage « Effondrement », donc « Collapse » en anglais, de Jared Diamond, qui maintenant a plus de 20 ans, l'ouvrage, où Jared Diamond se sert justement de ces colonies ou établissements vikings au Groenland, un petit peu comme un cas d'école pour regarder ce qui se passe lorsqu'une société humaine vit dans des conditions extrêmes et est soumise justement à des changements climatiques et essaye d'y répondre ou de ne pas y répondre, justement, puisque c'est effectivement ce qui s'est passé au Groenland. C'est-à-dire qu'après plus de quatre siècles, eh bien, il y a eu un arrêt, justement, de cette occupation viking dans ces établissements un peu au sud du Groenland. Alors, dans son ouvrage, en fait, Jared Diamond nous dit, en fait, que c'était la cause, finalement, à la fois du changement climatique. Donc, il y a eu, effectivement, cette transition petit âge glaciaire, enfin optimum climatique médiéval vers le petit âge glaciaire, qui a été néfaste à leur agriculture et à leur mode de subsistance, qui était vraiment en limite des possibilités. Et ce serait un peu de leur faute finalement. Bien évidemment, il y a des parallèles. C'est pour ça que le livre a eu beaucoup de succès, c'est qu'il y a à chaque fois des parallèles qui sont faits avec notre société globalisée d'aujourd'hui, mais ils auraient cherché à maintenir coûte que coûte leur mode de vie ancestral, en particulier leur modèle agropastoral importé de la Scandinavie, qu'ils auraient aussi contribué à la dégradation locale de leur environnement, je vais en reparler un petit peu lors du cours d'aujourd'hui, et qu'ils n'auraient pas adopté les solutions techniques développées par les Inuits. On en a parlé la semaine dernière, on a vu qu'en fait les deux communautés se côtoyaient forcément. Il y a eu des échanges, c'est ce que signalent les sagas, mais il y a eu aussi hostilité et des batailles et des morts même qui étaient liées justement à ces contacts et à cette incompréhension entre les deux peuples. Alors, donc contrairement à ce que Jared Diamond proposait, exagérait, c'est le fait que les colonies vikings se sont en fait adaptées au changement climatique, en particulier cette transition allant vers des températures plus froides. On a vu un assèchement aussi qui a été néfaste à l'agriculture. On a vu aussi un englacement plus important. Donc il y a des conditions climatiques qui se sont dégradées avec plusieurs paramètres qui, en parallèle, ont eu un impact sur ces communautés, si petites soient-elles. Mais ce que l'on a vu aussi, c'est qu'il y a eu des changements véritables dans ces sociétés, en particulier un changement quasiment complet du régime alimentaire. Et je vous avais cité notamment les travaux issus de mesures isotopiques, en fait, sur le collagène des os humains dans les sépultures vikings, qui montraient que pendant toute la période de transition entre 1000 et 1400 avant le présent, on assistait à un changement. C'est-à-dire que tout à fait au départ, Il y avait pratiquement un quart de produits de la mer qui étaient consommés par les Vikings, et tout à fait à la fin, et pratiquement c'était les trois quarts. Et ça, on le voit justement avec cette évolution. Je vous l'ai décrit, je vous ai dit que le delta C13 permettait de distinguer les deux types d'alimentation, à la fois avec des mammifères, des herbivores, d'élevage, mais qui consommaient des plantes terrestres. On peut les distinguer avec le delta C13 très bien, avec les produits à la fois des fruits de mer et des poissons jusqu'aux mammifères marins qui ont la signature des plantes marines qui sont très distinctes. Donc on arrive effectivement à voir qu'il y a eu une évolution et à quantifier, c'est-à-dire qu'on peut effectivement voir qu'il y a eu un changement complet du régime alimentaire. On le voit aussi dans les données, alors c'est beaucoup plus simple à obtenir, mais c'est plus difficile à quantifier au point de vue de la quantité de protéines ingérées. C'était directement avec les données archéozoologiques dans les fouilles archéologiques. Il est possible de retrouver des ossements et de voir en particulier qu'il y a eu une évolution. Il y a des travaux en fait qui montrent en fait que tout à fait au départ, le cheptel qui était utilisé par ces Vikings au Groenland, c'était essentiellement à peu près aux trois quarts des moutons, des chèvres, et le reste avec des vaches, quelques cochons et de très rares chevaux. Et il y a eu une adaptation progressive et on voit de moins en moins de vaches. Finalement, on a un rapport qui évolue dans le temps, et avec une dominante d'ovins tout à fait à la fin, et les cochons disparaissent relativement rapidement parce que ce sont des animaux qui sont très difficiles à maintenir dans des conditions aussi difficiles que celles du Groenland. Donc on voit aussi une évolution du régime carné lié au pastoralisme de ces Vikings au Groenland. Donc pas seulement avec les données isotopiques, mais aussi avec les données juste et bien aussi, bien évidemment, des restes osseux qui montrent la consommation de viande d'origine marine, en particulier des mammifères marins. Alors, je vous ai parlé de ces choses-là, et donc on va continuer justement à essayer d'évaluer et de voir les évidences directes d'autres changements qui ont eu lieu en parallèle, et notamment le fait qu'il y a eu effectivement une dégradation de l'environnement des Vikings, qui est de la responsabilité, je dirais, de ces populations, notamment l'érosion des sols. Alors ici, je vais vous montrer juste un exemple parmi d'autres, mais encore une fois qui est tout à fait emblématique de ce qui peut être fait sur ces éléments. Ce sont des travaux ici d'équipe française, de l'université, essentiellement de l'université de Franche-Comté à Besançon, où les chercheurs ont récupéré des carottes de sédiments dans un petit lac, le lac Igaliku, qui est pas très loin, qui est au sud en fait, tout à fait au sud du Groenland, donc à proximité de l'établissement ou de la colonie de l'Est, qui est en fait au sud, qui est représentée ici. Ici, vous avez une carte, vous avez la calotte de glace du Groenland, vous avez les différents fjords. Chaque petit point représente des ruines vikings qui ont été fouillées et cartographiées. Et puis, on a le petit hameau, en fait, le petit village autour de la cathédrale de Gardar, qui est ici, et un petit lac situé à proximité de ces ruines et de ces sites archéologiques vikings. Donc on voit que c'est un habitat en fait qui est assez dispersé, c'est-à-dire que c'est pas juste un village avec plusieurs. On a vu qu'il y avait les chiffres diffèrent suivant les auteurs, mais il y avait à peine entre 5 000 et 10 000 habitants vikings, probablement pas 10 000 mais plutôt 5 000 au total entre les deux colonies, et donc une petite société mais avec un habitat très dispersé, essentiellement lié au mode de vie et agro-pastoral de ces Vikings, avec une dispersion de l'habitat et un petit village autour de cette cathédrale ici. Alors, ce petit lac, il a été échantillonné avec des carottes qui ont été prises à une certaine profondeur, une cartographie du lac, et dans ces sédiments, il est possible d'aller y étudier comme dans les autres exemples que je vous ai montrés, différentes informations paléoclimatiques qui permettent d'avoir de l'information sur les conditions environnantes et notamment de détecter l'impact des populations qui vivaient autour de ce lac. En particulier, ce qui a été fait, c'était de calculer des taux d'érosion des sols et en regardant la minéralogie, le taux de sédimentation, et de voir qu'en fait, ce taux de sédimentation et ce taux d'érosion qui est ici quantifié, c'est la courbe en fait qui est représentée ici en gris, ça augmente. On a un maximum pendant la période d'occupation viking entre le tout départ, lorsqu'ils sont arrivés un peu avant l'an 1000, jusqu'à la fin de cet établissement, vers 1450, entre 1450 et 1500, on ne sait pas bien. Et on voit très nettement une augmentation de l'érosion des sols, donc ça a eu probablement une incidence tout autour de ce lac. Dans ce panneau, en fait, sont représentées encore une fois des données qui sont externes au lac. C'est-à-dire là, vous retrouvez les températures dont j'ai déjà parlé à l'échelle régionale, des températures mesurées à partir des isotopes stables de la carotte d'Ice-3, qui est une des carottes de glace les plus au sud du Groenland. Ici, on retrouve les pourcentages d'alimentation, mais les informations concernant les sédiments du lac sont dans les panneaux du haut. Donc, je vous ai parlé là, du taux d'érosion qui, effectivement, a évolué, était maximum pendant la période viking, mais s'est effondré très. On voit très, très nettement qu'à partir de 1400, on est revenu pratiquement à la ligne de base, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement une occupation, mais elle n'avait pratiquement plus d'influence sur ces taux d'érosion autour du lac. Alors il s'agit d'un lac parmi beaucoup d'autres, ça peut paraître anecdotique, mais en multipliant ce type d'études, on a une idée justement d'un impact effectivement de l'érosion sur l'environnement. On peut regarder aussi la végétation avec les pollens, c'est ce qui a été fait, voir une diminution des. Alors, ce n'est pas des arbres, c'est des pollens d'arbustes et autres qui diminuent pendant toute la période d'occupation et surtout aussi des pollens qui sont liés à l'anthropisation et notamment aussi parmi les pollens, il y a des spores. Bon, ce n'est pas des pollens, mais des spores de champignons. Coprophiles qui sont liés justement à la présence d'animaux d'élevage, en particulier les ovins. C'est des choses qui sont très bien connues dans la communauté des palynologistes et qui sont des spores. Bon, ici, vous avez quelques photos justement dans des sédiments groenlandais de ces spores de champignons coprophiles et puis le cycle de vie de ces champignons. Essentiellement, ils se développent justement sur les crottes de chèvres et de moutons. Et donc, on peut les retrouver comme ça dans les sédiments. Et c'est un traceur, parmi d'autres, de la présence. On pourrait travailler sur des molécules spécifiques. Mais là, il s'agit d'un marqueur très, très utilisé en palynologie. Donc on a une preuve, effectivement, de la présence de ces ovins, en particulier tout autour du lac. Alors, un autre, donc une dégradation de l'environnement, on a d'autres évidences aussi sur d'autres changements pendant la période de transition entre l'optimum climatique médiéval et le petit âge glaciaire, qui est que de plus en plus on voit, c'est les archéologues qui cartographient et mettent en évidence le fait qu'il y a abandon progressif des fermes les plus éloignées, celles qui sont très éloignées dans les fjords, enfin très éloignées de la côte au niveau tout à fait au fond des fjords, et un mouvement en fait des populations progressif. Un regroupement des communautés. C'est vrai aussi, les communautés qui étaient les plus en altitude vont descendre, et donc on assiste finalement à un regroupement des populations pendant cette période de transition, de dégradation climatique. C'est quelque chose qui est relativement bien reconnu. Ici, vous avez encore toujours cette même carte du sud du Groenland avec la cathédrale que je souligne ici, donc pour vous retrouver un petit peu sur cette cartographie. Mais quelque chose qui est relativement bien reconnu. Donc on a un mouvement des populations qui s'éloignent finalement des côtes. Et il y a un autre paramètre qui va nous intéresser pendant tout le cours d'aujourd'hui, qui est relativement nouveau dans le débat sur les différents facteurs qui ont contribué à l'effondrement de ces sociétés vikings, c'est le fait que ce mouvement de départ et de fuite des côtes vers un regroupement sur des hauteurs, mais surtout un regroupement éloigné de ces côtes, il y a aussi le fait qu'on a des preuves que certains sites vikings ont été submergés. On a la preuve qu'actuellement, certains sites sont même submergés, c'est-à-dire qu'on les retrouve partiellement sous l'eau. Et ce qui indique que, dans le passé, il y a eu une hausse du niveau marin. Alors ici, c'est juste encore un exemple qui vous montre toujours le sud du Groenland, un des fjords, toujours ce même fjord d'Igaliku, avec cette petite zone tout autour du hameau avec la cathédrale ici de Gardar et différentes ruines qui ont été fouillées et d'autre part des ruines aussi carrément au milieu qui sont les pieds dans l'eau, on va dire. Notamment, alors il s'agit ici pas d'habitation, mais d'un entrepôt, mais il y a d'autres ruines qui sont disséminées dans d'autres sites, qui sont effectivement sous l'eau. Ici, ce que je vous montre, là, ce sont des photos, justement, de ces ruines situées à Igaliku, qui sont des ruines vikings, mais qui ont été submergées partiellement. Ici, c'est une gravure, en fait, qui date du 19e siècle, qui montre, pour un autre site, des ruines vikings qui ont été submergées. Donc, on a effectivement une composante qu'il va falloir étudier, qui est liée au niveau de la mer, qui a envahi en fait ces sites partiellement et qui peut-être est responsable en partie, c'est des nouvelles thèses qui ont été proposées assez récemment, de l'effondrement. Ça a participé finalement aux conditions très défavorables de vie de ces colonies installées au sud du Groenland. Alors on va refaire un petit peu de paléoclimatologie en essayant de voir quelles sont les évidences direct, régional, et on va vite voir que le niveau de la mer, il faut aussi le concevoir à l'échelle mondiale. Et on aimerait bien avoir des informations chiffrées sur les fluctuations du niveau de la mer dans ces zones. Alors c'est relativement difficile, je vous ai parlé dans des précédents cours de changement du niveau de la mer, on peut les regarder, c'est des choses que l'on fait effectivement dans mon labo avec les coraux tropicaux qui suivent le niveau de la mer, on peut regarder ça sur des échelles de temps diverses, assez variées, mais même sur des échelles de temps très courtes, on a des marqueurs qui permettent de regarder finement et de dater les évolutions du niveau de la mer. J'en ai déjà parlé, alors il n'y a pas de coraux dans ces zones. Et un des outils qui peut être utilisé, un autre environnement qui peut être un marqueur des changements du niveau de la mer, ce sont ce que l'on appelle les marais salés, ou salt marsh en anglais, qui sont des environnements typiques des hautes latitudes, moyenne et haute latitude. Ce sont des environnements que l'on rencontre assez fréquemment. Ici, c'est deux vues, une de Nouvelle-Zélande, une autre du Connecticut, on pourrait en prendre aussi en Europe, mais essentiellement un étagement on observe dans ces zones de marais salés un étagement de la végétation en fonction de du niveau de la mer. Et on peut retrouver alors des flores et des faunes qui sont tout à fait adaptées à cette salinité qui est à proximité. Et on peut. Alors il y a des plantes. C'est un peu important comme la salicorne qui sont typiques de ces environnements, des environnements salés proches des côtes, mais dans les marais salés, on peut retrouver aussi d'autres organismes, des organismes microscopiques qu'on va retrouver dans les sédiments, et pour essayer de construire des fonctions statistiques en fonction des différentes espèces, soit de foraminifères, donc des faunes, soit des flores. On peut utiliser les diatomées, on en a déjà parlé, mais dans ce cadre-là, il s'agit d'autres diatomées qui permettent de regarder l'étagement et la proximité ou pas du niveau de la mer par rapport aux sédiments qui sont récupérés. Alors, c'est des photos d'organismes qui peuvent être utilisés pour ces fonctions de transfert. Là, je vous montre en fait un environnement avec du Groenland, justement, à l'ouest du Groenland, pas très loin de la colonie de l'Est, juste de l'Ouest, pardon, pour ce site-là, Sisimiut, avec un environnement, avec une partie qui est submergée, une partie, le marais salé, tel que l'on le connaît, dans d'autres zones. Alors, il y a très peu de végétation sur le terrestre, mais il s'agit effectivement des mêmes types d'environnements, et grâce à des carottages, des séries de carottages qui ont été effectuées dans ces environnements, et des chercheurs, il est possible en fait de reconstituer les fluctuations du niveau de la mer comme on peut le faire dans d'autres zones avec d'autres outils. S'il s'agit de travaux d'une équipe anglaise, Anthony Lang et ses collègues, qui ont reconstitué justement pour ce site là de Sisimiut, Sisimiut, je ne sais pas si ma prononciation est correcte, beaucoup de noms de ces Groenlandais ont différentes origines, comme on va le voir, là, je vais vous montrer en particulier pour les glaciers. Mais à partir de ces sédiments, à partir de carottage, à partir de datation au radiocarbone, on en a parlé aussi dans le dernier cours, il est possible de reconstituer les fluctuations du niveau de la mer au cours du temps. C'est ce qui est fait sur cette courbe-là. Ici, c'est juste un échantillon particulier qui vous montre un petit peu le principe. On voit, en ayant récupéré une petite carotte, on voit très nettement une différence de coloration entre l'interface qui signe en fait la submersion liée au niveau de la mer. Ce qu'il y a dans la partie basale, ce sont des tourbes, tourbières, donc peat en anglais, et au-dessus, on voit les salt marsh sediments, donc des sédiments de marais salés. Donc on a eu transgression, une augmentation du niveau de la mer. C'est typiquement ce qui est fait dans ces échantillons pour reconstituer le niveau de la mer au cours du temps. Alors là, encore une fois, je le fais à chaque fois, je vous mets une petite flèche pour vous indiquer la flèche temporelle, parce qu'à chaque fois, ça donne un petit peu le torticolis. Des auteurs utilisent une flèche temporelle de gauche à droite ou de droite à gauche. Et là, ce sont des âges, ce n'est pas des années calendaires, ce sont des âges avant le présent. Donc zéro, c'est 1950, et donc définition, en fait, on a défini le temps présent à 1950. On a un âge qui progresse de droite à gauche, mais la période à chaque fois qui correspond à la fenêtre temporelle d'occupation viking au Groenland, je vous la souligne avec ce mauve. Donc on voit en fait qu'il y a eu effectivement augmentation du niveau de la mer pendant la période viking, ce qui n'est pas négligeable. En fait, là c'est plus d'un mètre dans cette zone, ce qui est conséquent. Alors il y a d'autres enregistrements. Ici, il s'agit d'un enregistrement Sisimiut qui est à l'ouest du Groenland. Il y a d'autres enregistrements au sud du Groenland. Ici, je vous présente toujours de la même équipe une comparaison en fait des enregistrements au sud et à l'ouest du Groenland. Donc ici, deux sites à l'ouest du Groenland. Qui donnent des changements du niveau de la mer qui sont importants, mais pas énormes quand même, et un site qui est beaucoup plus au sud, Nanortalik, qui donne des changements qui sont beaucoup plus conséquents. Il y a d'autres études encore qui ont été faites depuis et qui ont confirmé le fait que, suivant la zone géographique où l'on se place, eh bien, on n'obtient pas les mêmes changement du niveau de la mer, et ce sont des changements. Avoir pratiquement un mètre ici, il faut voir qu'il y a à peu près un mètre de différence en plein milieu du petit âge glaciaire. Ici, c'est encore là, ce sont pour le coup des années, donc on évolue de droite à gauche, mais l'année 2000, c'est l'année actuelle. Donc on est 1450, la fin de la colonie viking est ici. Donc on voit que pendant toute cette période, il n'y a pas de données pour ces sites allant au-delà, qui remontent plus loin. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais on voit une différence qui est significative, qui est de plus d'un mètre entre les deux sites. Et avoir comme ça une différence de un mètre de niveau de la mer entre deux sites qui sont relativement proches, c'est soit une erreur dans les informations paléoclimatiques, soit quelque chose de réel qui est lié à des phénomènes physiques qu'il va falloir étudier. parce que ce n'est pas du tout anodin. Comme on va le voir, en fait, il y a des implications de ce petit mètre de différence entre les deux zones qui vont nous permettre de reconstituer ce qui s'est passé pendant la période de transition entre l'optimum climatique médiéval et le petit âge glaciaire pour ce qui concerne la calotte de glace du Groenland. Alors, on va être obligé un petit peu de refaire de la glaciologie. Donc là, je vais vous présenter un petit peu des principes de base qui vont permettre en fait de comprendre ce qui s'est passé lors de cette transition. Et il faut considérer en fait les bases en fait de cette glaciologie des calottes de glace continentales ou inland seas, qui sont qu'une calotte de glace, elle est animée de mouvements, alors même si ces mouvements sont lents, la glace flue lentement, mais c'est des mouvements qui sont incessants. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des icebergs qui partent à l'océan, c'est quelque chose de naturel. Il y a toujours un mouvement entre les précipitations, une zone d'accumulation qui est en altitude, et une perte de masse, soit par fonte directe à la surface de la calotte, soit par vellage ou calving en anglais. On parle de vellage d'iceberg au niveau de la périphérie, en particulier lorsque les glaciers arrivent à la mer. Donc c'est quelque chose qui peut maintenir une masse de glace, une calotte de glace qui est à l'équilibre en masse, mais un équilibre qui est dynamique entre une accumulation nette au-dessus de ce que l'on appelle la ligne d'équilibre, et en dessous de cette ligne d'équilibre, on a une ablation de glace, une perte de glace, par fluage, et donc départ à l'océan d'iceberg, soit fonte, comme on va le voir, qui est représenté ici, melt and runoff, ruissellement. Donc on peut avoir une perte de masse de deux façons différentes, et les deux contributions, en fait, se cumule, et c'est à la fois important, comme on va le voir, pour la période qui nous concerne, là, il y a plus de 1000 ans, mais c'est vrai encore aujourd'hui. On a deux contributions, en particulier au Groenland, avec formation, ici c'est une photo qui montre un lac supraglaciaire de fonte qui va pouvoir ruisseler. Alors généralement le ruissellement, il y a un écoulement en surface, mais il y a aussi formation de crevasses, et ici vous avez une photo avec des personnes qui sont à côté de ce flux d'eau qui part dans une crevasse. Donc c'est vraiment impressionnant, mais c'est un flux d'eau qui est lié à la fonte estivale. Et une autre composante qui est importante, c'est justement cette formation d'iceberg qui va être très localisée. C'est-à-dire que le débouché des glaciers ne se fait pas partout en périphérie de la calotte de glace. Elle se fait de façon très localisée à cause de la topographie des lieux. Donc c'est une particularité. Et aujourd'hui, on a les deux phénomènes qui se cumulent. Ce qui est important, c'est que depuis jusqu'aux années 90, on avait au Groenland à peu près deux tiers de masse qui était perdue sous forme d'iceberg, et à peu près un tiers qui était lié à la fonte estivale. Et maintenant, le rapport s'est quasiment inversé. On a plus de fonte estivale, beaucoup plus de fonte estivale que de composantes liées aux icebergs. Et ça, c'est lié au réchauffement actuel. Et c'est quelque chose qui est bien quantifié, mais les deux phénomènes se cumulent. Alors, il y a 1000 ans, comme c'était un état naturel proche du pré-industriel, on était plutôt avec une composante de flux d'iceberg qui était plus importante que la fonte estivale, mais à l'état naturel, on a les deux phénomènes qui se cumulent. Alors, j'ai montré quelques exemples justement pour vous montrer le fait que c'est très focalisé, et je prends en fait l'exemple de pratiquement le glacier le plus célèbre au Groenland, qui s'appelle le glacier de Jakobshavn ou de Ilulissat. Alors il a un nom en inuit encore plus compliqué, Sermek Kujalek, je ne suis pas sûr de la prononciation. Ça, c'est une vue satellite en fait de 2019 qui vous montre la situation. Alors, pour rappel, il y a un petit village qui s'appelle Iluissa qui est là. On voit la piste d'atterrissage qui est à ce niveau-là. C'est la petite chose droite que vous pouvez voir ici. Mais on est pratiquement, c'est de la roche nue. Et ce que l'on voit essentiellement, c'est cette langue de glace. On voit très nettement les lignes d'écoulement à ce niveau-là, et le départ d'iceberg dans le fjord, c'est ça qui occupe tout le fjord pratiquement, avec cette couleur blanche, avec des glaçons plus ou moins gros. Ce qui est fondamental, c'est de voir qu'effectivement, on a une localisation extrême de ce départ de glace vers l'océan. Le glacier d'Ilulissat, il draine, c'est ce qui est indiqué ici, c'est une petite carte qui représente de façon exacte, même si elle est toute petite là, sur le diagramme, qui représente le bassin versant, en fait, le bassin de drainage de glace. Donc en fait, même si le glacier d'Ilulissat est localisé au niveau de ce petit village, en fait, il draine pratiquement une grande fraction de la calotte du Groenland jusqu'à son centre. Et il représente pas loin de 10% de l'ensemble de la contribution en iceberg de tout le Groenland. Hein, c'est localisé, et donc il faut imaginer que si on multiplie par 10 le flux d'iceberg que l'on peut observer à Ilulissat, on a tout le Groenland au point de vue flux d'iceberg. Alors, bon, les autres sont plus petits, c'est un des plus importants. Mais donc une contribution qui va être très localisée et qui est liée justement à des masses de glace qui fluctuent. Alors d'autres photographies de ce glacier d'Ilulissat avec une vue avec les icebergs là, qui débouchent en mer. Et ce qui est aussi une des caractéristiques de ce glacier, c'est qu'il a évolué. Son taux de contribution d'iceberg a pratiquement doublé en l'espace de quelques années. Donc c'était vraiment très spectaculaire. C'était à partir des années 90. On a eu une vitesse d'écoulement du glacier qui a pratiquement doublé. C'est ce qui est indiqué ici sur ce diagramme. Et ensuite, ça a freiné pendant quelques années. C'est reparti depuis quelques années. Et en fait, il y a plusieurs débats pour savoir ce qui se passe au niveau de ce glacier. On appelle ça des glaciers de marée, ou tide water glacier, parce qu'ils débouchent en fait sur l'océan. Donc, ils sont sensibles aussi au contact océan-glacier. Mais donc, on a des à-coups actuels de ces flux de glace. Et bon, c'est un peu une parenthèse, mais comme je vous parle de ce glacier de Ilulissat et que c'est un exemple parfait justement de ces glaciers qui débouchent sur l'océan et qui drainent la glace du Groenland, il faut savoir qu'il y a des interactions aussi avec l'océan et que donc comme ils débouchent sur l'océan, ils peuvent être impactés par des changements climatiques, océanographiques, et c'est ça qui a été vu en fait. L'accélération qui a été observée pendant plusieurs années avec des flux très importants d'icebergs, ensuite un ralentissement et quelque chose qui est reparti à la hausse depuis quelques années, et semble lié en fait plutôt au contact entre l'océan et le glacier. Alors il y a une composante atmosphérique encore, les chercheurs, il y a des débats dans la communauté pour essayer de quantifier le rôle de l'océan par rapport aux changements liés au réchauffement et qui agit aussi directement sur la carotte groenlandaise. Mais ici c'est tiré d'un des premiers travaux publiés en 2008 qui montre en fait des températures qui ont été établies pour différentes années et qui montrent en fait la concomitance entre le réchauffement océanique dans cette zone et l'accélération du glacier d'Ilulissat. Alors, ce qui était intéressant, c'est que ces données, en fait, elles provenaient. Alors, il y a eu d'autres papiers ensuite, des papiers qui ont confirmé, qui ont montré que c'était vrai aussi pour le ralentissement et aussi pour la réaccélération récente. Mais les premières données qui ont permis de faire ça, c'était des données des pêcheries de chalutiers qui étaient pas utilisés pour faire de la science, et ces scientifiques les ont utilisés pour cartographier ces changements de température, pour montrer qu'il y avait une composante importante liée au réchauffement océanique. Alors, revenons à nos Vikings. Donc, il y a des glaciers aussi à proximité des colonies vikings, en particulier la colonie de l'Ouest, et on va le voir aussi la colonie de l'Est. Ici, ce que je vous montre, ce sont des vues satellites directes proches de la colonie de l'Ouest. Ici, vous avez la capitale, en fait, Nuuk, la capitale du Groenland, avec, bon, c'est une ville de 20 000 habitants, donc c'est deux fois mon village en Provence. Mais donc, c'est pas une capitale énorme, mais c'est vraiment, elle est placée ici, à proximité d'un long fjord, et tout à fait au bout de ce fjord, il y a plusieurs glaciers, en particulier un glacier qui a un nom à rallonge en islandais, enfin non, en inuit, Kangjata Nunata Sermia, le diminutif c'est KNS, c'est ce qu'utilisent les scientifiques pour en parler. Et donc on a une langue de glace, et de la même façon, on a eu aussi une retraite très importante entre les années 90 et 2000. Donc on a les mêmes phénomènes qui se sont passés à Ilulissat, mais de façon moins soutenue. Des changements qui sont aussi actuellement importants. Et alors, pour revenir à notre problématique sur les Vikings et de ce qui s'est passé il y a 1000 ans, on peut aussi, je vous en ai parlé dans des précédents cours, essayer de dater les avancées, les retraits aussi des calottes de glace et des glaciers, en prenant des moraines ou en utilisant certains isotopes qui sont implantés par le rayonnement cosmique. Donc il y a plusieurs types de datation que l'on peut faire pour essayer de reconstituer le volume et l'étendue de ces langues de glace. C'est ce qui a été fait notamment pour ce glacier KNS. Ici, vous avez tiré d'une étude publiée en 2022, justement, une vue satellite qui a été prise. Là, c'est une vue Landsat de 2016, qui vous montre la situation actuelle, mais avec des informations qui montrent qu'en fait, le glacier était beaucoup plus étendu pendant le petit âge glaciaire. On a des datations véritables qui montrent en fait que toute la partie qui aujourd'hui est occupée par l'océan était en fait complètement englacée. Il y avait aussi confluence avec d'autres glaciers qui ont des noms aussi compliqués. Donc ces trois glaciers, KNS, AS et QS, étaient confluents à un moment de leur histoire récente, pendant la période du petit âge glaciaire, et ça a eu une incidence justement sur, comme on va le voir, sur les colonies vikings, en particulier la colonie de l'Ouest, qui est à proximité de la capitale actuelle, Nuuk. Ici, vous avez encore une fois une petite carte avec d'une part le Groenland, d'autre part les différents fjords et les ruines vikings qui sont indiquées par des points jaunes. Donc on a des preuves en fait sur le fait que ces différents glaciers étaient confluents et donc étaient beaucoup plus importants au point de vue de leur volume. Alors, c'est ce qui a été reconstitué ici par ces auteurs qui ont essayé d'estimer la longueur en fait de ces glaciers dans cette zone en fonction du temps, en années. Donc on retrouve ici la période viking, on va dire, entre un peu avant l'an 1000 jusqu'à 1450, et une évolution, une dégradation, enfin une augmentation du volume de ces glaciers qui proviennent donc de la calotte du Groenland à proximité, et avec des âges qui ont pu être établis pour la confluence entre les différents glaciers qui débouchaient sur ce fjord qui va jusqu'à Nuuk. Donc ici, différentes étapes. Mais globalement, on a, pendant le petit âge glaciaire, qui est montré ici, entre 1250, on va dire, et pratiquement jusqu'au XVIIIe siècle, on a un maximum de glace pendant ce petit âge glaciaire. Alors, quelles ont été les incidences de cette poussée glaciaire, de cette avancée pendant le petit âge glaciaire sur le niveau de la mer? C'est ce que l'on va voir, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc je vais essayer d'être je vais essayer d'être pédagogue pour vous montrer que les choses sont contraires à l'intuition. c'est quelque chose qui est, lié à des phénomènes géophysiques qu'on va essayer d'aborder qualitativement, mais en même temps, tous ces phénomènes peuvent être bien évidemment quantifiés avec des calculs de modélisation. Alors le premier phénomène qui est important à prendre en compte, c'est ce que l'on appelle le réajustement isostatique post-glaciaire. Pour essayer de comprendre quelle est l'évolution du niveau de la mer au cours du temps, le principe de base, c'est que au premier ordre, on pourrait considérer que l'océan est un réservoir avec une géométrie constante et que donc le niveau de la mer évolue de la même façon partout, parce que c'est le volume d'eau à l'océan qui est important. En moyenne, c'est ce qu'on appelle le changement du niveau de la mer eustatique, celui qui est vraiment lié au changement du volume d'eau. Mais en fait, comme on va le voir, les changements du niveau de la mer, du volume d'eau, vont aussi influer sur les masses continentales, vont influer aussi sur l'attraction gravitationnelle entre les différentes masses d'eau, et on va voir que ça a des incidences sur le niveau de la mer, sur un trait de côte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit au monde où on peut dire que le changement du niveau de la mer est la moyenne globale eustatique. Pratiquement toutes les zones géographiques sont affectées par des réajustements, et c'est encore vrai, c'est vrai partout, notamment dans les zones situées à haute latitude, au Canada, au Groenland, en Scandinavie, parce qu'il y a 20 000 ans, il y avait d'énormes calottes de glace. Le Groenland était plus gros pendant la dernière glaciation. Il y avait une énorme calotte de glace au Canada, une énorme calotte de glace qui était centrée sur la mer Baltique. La mer Baltique est en fait elle va disparaître dans le futur géologique, parce que tout le continent en fait remonte à cause de cette mémoire du fait qu'il y avait une énorme calotte de glace, il y avait 3 km de glace au-dessus de la mer Baltique, du golfe de Botnie. Donc même aujourd'hui, on a encore ce réajustement isostatique post-glaciaire. Je vous en ai déjà parlé lorsqu'on a mentionné les changements glaciaires-interglaciaires. Même pour l'Holocène aussi, c'est important. Et c'est vrai encore aujourd'hui. On a, quand on observe le trait de côte dans le golfe de Botnie, on voit très nettement que année après année, le niveau de la mer descend. Mais c'est en fait le continent qui remonte parce qu'on est à proximité. On est pratiquement sous l'ancienne calotte de glace qui existait il y a 20 000 ans, et les phénomènes géophysiques de réajustement isostatique sont très lents et interviennent comme ça sur des milliers d'années. C'est ce qui est symbolisé par ces deux représentations très schématiques. Lorsqu'on pose une calotte de glace sur un continent, eh bien ça a tendance à le déformer, à former une dépression. Et d'autre part, tout autour de la calotte de glace, il y a il y a des mouvements donc visqueux dans le manteau, et on a formation aussi d'un bourrelet périphérique, donc une montée, une surexion périphérique et une dépression au centre. Et quand on fait disparaître par fonte, on peut le supposer de façon instantanée, on supprime la calotte de glace, et bien pendant des millénaires ou des dizaines de milliers de millénaires, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui on a la mémoire dans ces zones des calottes de glace qui existaient il y a 20 000 ans, et bien on a une surexion là où il y avait les calottes de glace, par exemple dans le golfe de Botnie ou en baie d'Hudson en Amérique du Nord, et tout autour, là où il y avait le bourrelet périglaciaire, eh bien, on a une subsidence. Et donc, lorsqu'on regarde les changements du niveau de la mer actuellement, il faut tenir compte, dans ces zones, de ces différentes composantes. Dans la zone qui était située, c'est ce qui est symbolisé sur ces petites images, dans la zone qui était directement située sous la calotte de glace qui a disparu, eh bien, on a un continent qui va remonter. Donc, le niveau de la mer baisse, mais ça peut baisser sur des dizaines de mètres, comme je vais vous le montrer, on va le voir au Groenland, donc ça peut être très important. Et par contre, tout autour, au niveau de ce bourrelet périphérique, on a un phénomène de subsidence qui va en fait aussi se cumuler si le niveau de la mer global, avec l'eau qui provient de la calotte de glace, qu'elle va à l'océan, eh bien, Bien évidemment, le niveau moyen général va augmenter, mais donc dans ces zones, on a un cumul entre deux phénomènes. D'une part, le changement global lié au volume d'eau que l'on met à l'océan, mais en plus, le fait qu'il y a subsidence et que le continent eh bien, bouge, plonge, et donc on a deux composantes qui vont se cumuler. Alors, et les choses peuvent être très compliquées lorsque l'on se place dans une zone de frontière. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir d'abord le phénomène principal qui va être que toute la plaque, enfin tout le continent va remonter, et puis ensuite, lorsque les choses se calment, parce que ce sont des phénomènes qui interviennent, qui sont viscoélastiques, qui ont des temps de relaxation relativement longs, ensuite on peut avoir un autre phénomène, le phénomène du bourrelet, qui va pouvoir dominer. En fait, il faut voir ça un petit peu comme un mouvement, comme le mouvement d'une onde à la surface de l'eau, hein, on a directement comme ça des changements sur la lithosphère et le manteau qui vont intervenir dans ces zones particulières. Alors c'est ce qu'il est possible de reconstituer avec des informations provenant de lacs, on appelle ça des lacs en escalier, qui sont typiques ici. Vous avez une photo justement du Groenland, toujours des travaux de la même équipe anglaise qui regarde justement finement ces changements du niveau de la mer au Groenland. Et il est possible en fait de retrouver des lacs qui en fait au départ étaient connectés à l'océan, étaient sous l'eau, et on les retrouve à différentes altitudes. Et en prélevant les sédiments, en regardant l'interface entre les sédiments marins, lorsque le lac était en contact, était en fait sous l'eau, lorsque la dépression était en fait sous l'eau de mer, et qu'elle a été exondée, ensuite on a des sédiments lacustres, en datant l'interface entre sédiments marins et sédiments lacustres, il est possible d'avoir une information chiffrée sur le niveau de la mer, parce qu'on a l'altitude du lac en plus. Donc il est possible de reconstituer des courbes régionales, locales, de l'évolution du niveau de la mer pour les derniers millénaires. C'est ce qui a été fait tout autour du Groenland, notamment pour les sites dont je vous parle. Ici, en particulier le site à l'ouest, Sisimiut, là vous le retrouvez, Nanortalik est au sud, il y a un site aussi à l'est du Groenland qui est mentionné, et dans ces différents sites, eh bien, il a été possible de reconstituer l'évolution apparente du niveau de la mer sur le trait de côte pendant les derniers 10 000 ans. Pendant les derniers 10 000 ans, le niveau de la mer, il a monté, je vous l'avais montré dans des précédents cours, il a monté pendant la déglaciation, et pratiquement à partir de 5 000 ans avant le présent, le niveau marin global était constant. Donc en fait, tout ça, tous ces changements, là il s'agit de plus de 130 mètres de baisse du niveau de la mer pendant 10 000 ans, c'est absolument énorme, mais c'est complètement lié à ce phénomène de remontée du continent, enfin, du Groenland en fait. Et donc on a cette relaxation lente, et ce qu'il faut voir aussi, c'est que tout à fait à la fin, sur les derniers 2000 ans, eh bien, on a cette transitoire avec l'effet de remontée du niveau de la mer qui est lié au fait que dans ce cas-là, à la fin, lorsque ce phénomène de remontée à une grande échelle se termine un peu, on a l'autre phénomène qui domine. Bon, les deux sont en fait superposés, mais l'effet du bourrelet qui vient faire en sorte que le niveau de la mer, là, il augmente pratiquement depuis 2000 ans. Donc on a une composante d'augmentation du niveau de la mer qui est compliquée en fait à interpréter et qui dépend de la zone géographique. Donc ici, vous avez différents sites pour les derniers 10 000 ans. Alors là, encore une fois, il s'agit d'âge avant le présent. On est à 10 000 ans avant le présent. L'année 0 est ici. Enfin, l'année 2000 est ici, donc c'est notre année 0 aujourd'hui. La partie qui nous intéresse, finalement, il faudrait faire un zoom pour regarder ce qui s'est passé il y a 1000 ans. 1000 ans BP correspond à la partie de l'optimum climatique médiéval. Il faut regarder ici, mais pendant toute cette période, on a effectivement une augmentation du niveau de la mer, à la fois au sud, Nanortalik, à la fois et sur la partie ouest, Sisimiut, pour la partie ouest, donc à proximité des deux colonies qui nous intéressent. Ici, il s'agit d'un zoom en fait sur les données. Ça peut être compliqué régionalement parce qu'en fait, tout dépend de la topographie aussi, et il faut la prendre en compte. Mais ici, ce qui est représenté, c'est la baie de Disco. Qui est cette baie, ben, je vous ai montré actuellement le fameux glacier d'Ilulissat, le glacier d'Ilulissat qui est situé plus au nord que la capitale Nuuk, débouche justement sur cette baie de Disco. Et cette baie de Disco, c'était le principal lieu en fait de pêche des morses et probablement aussi de conflits entre les Inuits et les Vikings. C'est là où ils allaient essentiellement chercher leurs morses et leur défense et leur ivoire qui était exporté. Donc cette baie de Disco, elle a été aussi échantillonnée pour regarder les changements du niveau de la mer, pour mettre en évidence cette diminution à très long terme du niveau de la mer et cette remontée transitoire qui est plus récente, qui commence il y a 2000-3000 ans et qui intervient encore aujourd'hui. Donc on a des phénomènes lents, mais donc on comprend pourquoi, en partie, le niveau de la mer augmente. Alors ça, c'est quand on regarde les détails et qu'on regarde la quantification, c'est insuffisant en fait pour expliquer les données. Quand on fait de la géophysique de ce phénomène de réajustement isostatique post-glaciaire avec des modèles de géophysique qui représentent la lithosphère, le manteau, on peut effectivement simuler ces phénomènes géophysiques de réajustement isostatique, mais tout calcul fait, cette composante, elle n'arrive pas à expliquer l'augmentation du niveau de la mer locale que l'on voit dans les sites vikings. C'est insuffisant. Et en fait, c'est lié au fait qu'il y a une deuxième composante géophysique, encore une fois, qui est beaucoup plus rapide, qui est liée à un réajustement gravitationnel, en fait. Alors, il faut avoir en tête que les masses d'eau, les masses continentales aussi, engendrent une attraction gravitationnelle sur l'océan, et que, de façon complètement contraire à l'intuition, lorsqu'une calotte de glace perd de la masse, eh bien, en périphérie, elle donne de l'eau à l'océan, le niveau de la mer mondiale, globale, eustatique va monter, mais régionalement, tout autour de la calotte de glace, le niveau de la mer va descendre. C'est contraire à l'intuition, mais c'est lié au fait que lorsque la calotte de glace perd de la masse, ben sur une surface qui est relativement petite, donc ça, c'est un volume important, ensuite ça va se répartir dans l'océan mondial de façon compliquée, mais cette masse de glace, eh bien, elle n'engendre plus d'attraction gravitationnelle sur l'océan, ou bien cette attraction va diminuer et ça va avoir tendance à faire baisser le niveau de la mer régionalement. C'est des choses qui se modélisent aussi avec les mêmes modèles géophysiques qui sont utilisés pour le réajustement isostatique post-glaciaire qui tiennent compte des masses terrestres. Tiennent compte aussi du mouvement des masses d'eau, de la répartition des masses d'eau, à la fois de l'eau liquide et de l'eau dans les différentes calottes de glace, les calottes de glace actuelles comme l'Antarctique et le Groenland, et dans le passé, quand on étudie les glaciations ou qu'on veut étudier l'incidence actuelle des anciennes calottes de glace du dernier maximum glaciaire qui était situé au Canada et en Scandinavie, on est obligé d'utiliser ces mêmes modèles de réajustement isostatique post-glaciaire. Et pour dire que c'est pas anodin, ce réajustement isostatique post-glaciaire, c'est une des principales corrections pour les données satellitales d'altimétrie. On peut mesurer le niveau de la mer actuellement avec plusieurs satellites. Ça a commencé dans les années 90. On a une série temporelle complète en fait d'augmentation du niveau de la mer. Et bien, une des corrections importantes à apporter à ces données est liée justement à ce réajustement isostatique post-glaciaire. Il y a d'autres satellites qui permettent de regarder l'océan et les calottes de glace, qu'on appelle les satellites gravimétriques. Eux aussi ont besoin de correction de ce phénomène très ancien, mais qui agit encore sur les masses actuelles, sur les masses terrestres et les masses de glace. Alors, ce deuxième phénomène géophysique qui est beaucoup plus rapide, qui est instantané à l'échelle géologique, de réajustement gravitationnel, on peut le calculer. Alors ici, c'est juste un graphique typique, en fait, qui a été établi par des spécialistes du sujet. Ici, il s'agit de travaux canadiens par un professeur qui est à Ottawa, Glenn Milne, et ce qui a été supposé, c'est que dans ce calcul, qu'on a une fonte générique de 1 mm par an. On fait fondre les glaces. Alors là, ce qui a été supposé, c'est que c'est réparti entre l'Antarctique et le Groenland de façon équivalente. Donc pratiquement, c'est 0,5 mm par an du Groenland, 0,5 mm par an de l'Antarctique, cumulé, donc ça fait 1 mm. Eh bien, il n'y a pas un endroit sur Terre où on a exactement 1 mm. Si, en fait, on pourrait retrouver, c'est là où on est à zéro. Mais pratiquement partout, on a soit des changements qui excèdent le 1 mm par an, soit sont bien évidemment déficitaires, parce qu'il faut qu'il y ait compensation à l'échelle mondiale. On a effectivement le 1 mm par an, puisque c'est la donnée de départ. Donc c'est ça qui est important. Donc on a tout autour de la calotte du Groenland une baisse du niveau de la mer. Ici, les chiffres sont donnés. Non, c'est la partie blanche, en fait. Vous voyez, on a des chiffres qui sont négatifs. Le changement du niveau de la mer, même en introduisant 0,5 mm du Groenland, eh bien, le niveau de la mer va descendre autour du Groenland et il va être bien supérieur aux antipodes. Dans le Pacifique, le changement du niveau de la mer à cause du Groenland va être très important et on a quelque chose qui est graduel. On a des changements qui vont être moindres au niveau de l'Europe du Nord. Ici 0,2, 0,4 mm par an, tout ça à cause de ce réajustement gravitationnel. On perd de la masse, donc la calotte de glace va moins attirer l'océan. Alors c'est de façon très imagée, c'est ce qui est représenté sur ces diagrammes. Quand on a fonte d'une calotte de glace, on a de l'eau qui part de la calotte de glace pour aller vers l'océan, eh bien, qui va donc se répartir à l'échelle océanique. Eh bien, ça va avoir tendance à diminuer l'attraction gravitationnelle de la calotte de glace sur l'océan, qui va donc baisser à proximité et bien évidemment de l'autre côté, aux antipodes, on doit avoir une compensation. Donc là, la pente, elle est imperceptible. Hein, c'est quelque chose qui se calcule, qui peut se mesurer aussi, mais encore une fois, là, c'est très exagéré dans ce diagramme. Et le contraire est totalement vrai, c'est-à-dire que là, on pourrait inverser, c'est-à-dire qu'on peut passer de cette situation avec une petite calotte de glace et un englacement. C'est ça qui s'est passé justement pendant le petit âge glaciaire. On a localement, régionalement, une poussée glaciaire, une augmentation du volume de glace de la calotte de glace du Groenland pendant le petit âge glaciaire, qui fait passer de cet état avec une calotte de glace plus petite à un état un peu plus grand. Et donc, ça va avoir tendance à augmenter le niveau de la mer. C'est-à-dire qu'on a un englacement, donc on retire de l'eau de l'océan pour la stocker sur le continent, et eh bien ça a quand même, localement, régionalement, une incidence avec une augmentation du niveau de la mer, même si à l'échelle générale mondiale, on a une baisse, puisqu'on retire de l'eau à l'océan. C'est quelque chose qui se calcule, et qui a été calculé à partir de certaines données pour les colonies du sud du Groenland. C'est tiré d'un travail qui a été publié il y a quelques années, toujours par des chercheurs qui sont spécialisés sur ces réajustements isostatiques et gravitationnels, dont Glenn Mill, justement. Donc ici, c'est ce qui est représenté sur cette vue, c'est d'une part les différents sites de la colonie sud, la proximité de la calotte de glace, je vous l'ai montré auparavant, et les zones en fait où on a la preuve d'un englacement supérieur pendant le petit âge glaciaire. Je vous ai dit que dans certains cas, on l'avait vu à l'ouest avec la poussée glaciaire qui a été bien mise en évidence sur le glacier KNS. Ce sont des choses. Le glacier KNS, il a bougé comme les autres. Et donc, on peut effectivement essayer de modéliser. C'est ce qui a été fait par les chercheurs en faisant augmenter la calotte de glace à proximité dans la zone où on a des évidences de changement de ces volumes. On peut faire des calculs de réajustement isostatique, mais aussi de réarrangement gravitationnel lié aux masses de glace supplémentaires qui vont donc attirer plus le niveau de la mer. Donc là, ce qui a été fait par les chercheurs, c'est, comme il y a beaucoup d'incertitudes, ils ont fait une hypothèse qui est que on n'a pas d'informations directes sur le volume de glace qui a été stocké pendant le petit âge glaciaire. Et donc là, la supposition, c'est que ils ont fait un ajustement de leur modélisation pour essayer de fitter, d'ajuster et de retrouver avec leur modélisation les données du niveau de la mer observées pour le site de Nanortalik, dont je vous ai montré les données. Alors elles sont ce qu'elles sont, mais globalement c'est l'hypothèse qui est faite dans le papier. Ils ont essayé de reproduire avec la modélisation, alors, dans une certaine mesure de façon inverse, à partir des données de la modélisation qui est bien contrainte au point de vue physique, la localisation des masses de glace à proximité qui est relativement bien connue, ou au moins on peut faire une hypothèse dessus, et un des paramètres de sortie du modèle, c'est l'équivalent en baisse du niveau de la mer pour cette zone-là. Et donc, c'est voilà un peu le résultat, je dirais, de leur papier, c'est de montrer que on peut retrouver l'augmentation du niveau de la mer pour les sites sud du Groenland en supposant qu'il y a eu augmentation du volume de glace à proximité avec un volume qui est insignifiant à l'échelle mondiale, qui est de quelques millimètres, mais quelques millimètres de GMSL, de Global Mean Sea Level, équivalent au changement global eustatique de niveau de la mer. C'est très conséquent quand on le concentre sur une zone particulière. Donc c'est ça qui a été fait. Et donc cette augmentation de masse, elle permet d'expliquer par attraction gravitationnelle le changement du niveau de la mer. Alors ça, c'est une autre vue de tirer en fait du même travail où les chercheurs ont donc fait ce calcul pour essayer d'ajuster aux données, de montrer que le niveau de la mer n'était pas uniquement lié au phénomène très lent de viscoélastique sur des millénaires, mais qu'il y a en plus une composante gravitationnelle qui est liée au petit âge glaciaire, au fait qu'il y avait plus de glace localisée à proximité et que donc c'est cette glace qui a attiré l'océan pour faire monter le niveau de la mer de plusieurs mètres, en fait. C'est ce qui est indiqué ici. Vous avez une échelle, là, ensuite, de simulation des changements du niveau de la mer pendant la période entre l'an 1000 et 1450. C'est la fin de ces colonies vikings. On a donc une augmentation du niveau de la mer qui est de plusieurs mètres. Là, les deux phénomènes sont cumulés, mais pour les différents sites de Gardar, Valsey et autres. Donc une hypothèse qui est relativement récente, mais qui est basée sur des informations et de la modélisation qui montrent que non seulement on a eu une dégradation climatique liée aux températures, on a vu qu'on avait quelques évidences aussi pour un assèchement, on a vu aussi que les conditions de mer étaient différentes, qu'il y avait un englacement, il y avait moins de banquises, il y a eu une dégradation pendant le petit âge glaciaire, plus de banquises qui empêchaient qui freinaient un petit peu les contacts avec l'Europe, et une autre composante qui a été proposée donc assez récemment, une cause qui serait liée au niveau de la mer, qui aurait affecté en plus, qui serait venue se cumuler à toutes les autres dégradations, mais qui aurait affecté directement certains sites et que l'on retrouve submergés encore aujourd'hui. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer sur ces différentes informations paléoclimatiques directes, indirectes, régionales, très localisées au Groenland et à l'échelle qui ont des ramifications à l'échelle mondiale. Pour ce que je vous ai montré là, c'est qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé au Groenland finalement en ne regardant que le site lui-même. Il faut aussi faire intervenir des choses à grande échelle. Et je vais vous laisser avec quelques conclusions. C'est-à-dire que l'effondrement, finalement, c'est la conclusion principale. C'est-à-dire les Vikings du Groenland, ces établissements norrois du Groenland, ils se sont effondrés, ils se sont arrêtés. Je vous ai dit que la dernière date fiable, c'était un dernier mariage en 1408, et puis ensuite on n'a pas vraiment d'informations très détaillées sur ce qui s'est passé entre 1408 et 1450, peut-être même après. Mais il est très clair que le climat a eu une influence, c'est multifactoriel. Essentiellement, la détérioration climatique du petit âge glaciaire a eu forcément une importance, comme on l'a vu. On a vu aujourd'hui qu'il y a eu aussi une hausse du niveau de la mer, englacement, assèchement, et aussi probablement des conflits pour l'instant, qui reste à l'état d'hypothèse. Enfin, on a des informations dans les sagas et sur le fait qu'il y a eu des batailles, mais on a vu qu'il y a des hypothèses sur des contacts à très grande échelle spatiale avec les Inuits, mais liés à la génétique, mais pour l'instant, c'est encore l'objet de débats. Mais bon, il y a une grande question aussi sur l'influence de ces contacts avec les populations inuites qui, en fait, sont descendues. Je vous ai montré aussi que les archéologues ont des évidences pour montrer que pendant toute cette phase, il y a eu une migration de ces populations et que pendant la période la plus chaude de l'optimum climatique médiéval, ils occupaient le nord du Groenland et ils sont descendus. Donc il y a aussi une composante climatique, peut-être aussi dans cette migration vers le sud. C'est très difficile, en fait, d'estimer des pourcentages d'explications climatiques pour toutes ces composantes, mais il est indéniable qu'il y a aussi des impacts sur ces populations. Un autre paramètre dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, j'en parlerai un peu plus lorsqu'on abordera des périodes plus anciennes sur l'optimum climatique romain, c'est le fait qu'il y a eu aussi en Europe, pendant cette période, la peste noire. L'Europe était ravagée par la peste noire qui n'est pas arrivée au Groenland. Il n'y a pas d'évidence, pas de texte qui relate ça. Elle est arrivée tardivement en Islande en 1402, mais globalement ça a aussi contribué à tarir, enfin, et à freiner les contacts entre les colonies du Groenland et le royaume de Norvège et l'Europe où étaient vendus justement tous ces objets en ivoire. Et donc il y a, comme on va le voir aussi, en particulier lorsqu'on considérera les phénomènes de peste et d'épidémie, il y a aussi des composantes climatiques, donc c'est pour ça que je les ai colorées ici en bleu. Il y a des phénomènes qui sont directement issus, enfin liés aux impacts climatiques, difficiles à chiffrer, mais indéniablement avec un impact direct, et des impacts diffus aussi sur d'autres composantes, des migrations, des problèmes de peste, et des phénomènes qui sont tout à fait liés aux sociétés. En particulier, il y a eu effectivement une baisse de l'attractivité de l'ivoire des morses, notamment parce qu'il y avait accès plus facile à l'ivoire d'éléphants d'Afrique. Et donc, bon, fort heureusement pour les morses, sinon ils auraient disparu comme ils ont disparu d'Islande. Il en reste encore au Groenland et un peu partout. Mais et une détérioration aussi qui a peut-être contribué, c'est très difficile à chiffrer quel est le pourcentage explicatif de ces changements d'érosion, mais il est indéniable qu'on a des évidences, comme je vous l'ai montré de façon un peu anecdotique, mais quand on les réplique et qu'on les répète, on voit qu'il y a eu effectivement des impacts. Donc un effondrement qui est très réel, puisque les colonies se sont arrêtées, mais qui est multifactoriel. Le climat est impliqué dans plusieurs causes, mais c'est très difficile à quantifier. Donc il y a des chercheurs qui essayent de faire des modèles conceptuels, on va dire, de cet effondrement, en particulier ce chercheur, donc Dugmore. Ici, vous avez exemples, en fait, ces deux modèles conceptuels, ces deux changements un peu opposés. Un qui est le modèle, on va dire, classique, où avec un modèle de variation et d'effondrement qui serait lié essentiellement à la dégradation environnementale, un modèle conceptuel environnemental, essentiellement lié à une adaptation faible au changement climatique, et tout est piloté par les changements climatiques que j'ai soulignés ici en rouge, et un autre qui est plus sociétal, mais où les phénomènes climatiques interviennent de toute façon pour contribuer aussi aux dégradations. Et là, encore une fois, on retrouve essentiellement les problèmes d'échange, trading, avec les Inuits, mais globalement, on a aussi comme facteur important dans toute cette chaîne causale, dans toutes ces deux chaînes causales qui sont présentées de façon opposée, mais bon, probablement la vérité est entre les deux, et les différents ingrédients existent en fait dans ces deux chaînes causales. Mais il est très difficile, c'est ça un peu le résumé du cours et de cette évaluation du cas de l'effondrement des colonies du Groenland, c'est qu'il est très difficile de déterminer un pourcentage, même avec une incertitude, d'explication par les facteurs climatiques, parce que d'une part, ces facteurs climatiques sont multiples et qu'ils vont affecter à la fois les colonies, les problèmes de transport et ce qui se passe aussi sur le continent. Donc, mais bon, une importance du climat qui est indéniable. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.